Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Et oui, bienvenue dans les portes de la connaissance, l'émission que vous avez l'habitude d'avoir tous les vendredis à 14h. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le cosmos. Vous avez l'habitude, parce qu'on a eu déjà des émissions sur l'univers avec des grands astrophysiciens, de grandes pointures de la science. Et aujourd'hui, on va faire un voyage dans le cosmos à l'étude des astéroïdes, des comètes et des météorites. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de savoir des choses sur les corps célestes, eh ben vous êtes les bienvenus parce que ça va être une émission extraordinaire avec Patrick Michel qui va nous parler un petit peu de tout ça et qui est du CNRS d'ailleurs et qui est en relation avec l'Agence spatiale européenne. Alors bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-moi-en un peu plus. D'abord, présentez-vous, dites-nous un peu qui vous êtes.
Oui, alors donc je suis Patrick Michel, je suis astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Je suis aussi professeur à l'Université de Tokyo et chargé de projet à l'Agence spatiale européenne. Et en particulier, je suis responsable scientifique de missions spatiales consacrées aux astéroïdes. L'une s'appelle ERA, qui contribue au premier test de déviation d'astéroïdes avec la mission DART de la NASA, et la mission RAMSES, qui vient d'être financée au Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne, qui doit rendre visite à un astéroïde qui va passer très près de la Terre sans risque le vendredi 13 avril 2029, et qui s'appelle Apophis. Et je suis aussi impliqué dans la plupart en fait des missions qui vont voir des astéroïdes dans le monde entier. Voilà.
D'accord. Alors, comment en êtes-vous venu à devenir scientifique dans ce domaine? Parce que c'est un domaine très précis. C'est vrai que les astéroïdes, on est astrophysicien, on peut étudier les étoiles, on peut étudier le fonctionnement du système solaire, on peut étudier plein de domaines dans l'astrophysique. Et là, comment êtes-vous spécialisé dans les astéroïdes?
Oui, alors en fait, au tout début, c'était pour essayer de comprendre d'où venaient et quelles étaient l'évolution des astéroïdes qui croisent la trajectoire de la Terre, qu'on appelle les géocroiseurs, qui sont ceux qui peuvent représenter un risque. Donc il y avait ce volet d'abord de ce qu'on a appelé ensuite la défense planétaire, comment se protéger du risque d'impact d'astéroïdes. Et puis en commençant à étudier en fait ces objets pour cette raison-là, je me suis rendu compte, mais pas que moi, enfin scientifiquement on s'est tous rendu compte qu'en fait ce sont parmi les meilleurs traceurs de l'histoire du système solaire. Donc si on s'intéresse à comprendre comment le système solaire s'est formé, comment les planètes se sont formés et comment la vie a émergé sur Terre, en réalité, ces informations-là sont contenues dans ce petit corps parce qu'on s'est très vite rendu compte que ce sont en fait les restes des briques qui ont formé les planètes. En fait, il faut remonter il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Notre système solaire était une étoile entourée d'un disque de gaz et de poussière qui était de l'échelle micrométrique, comme l'épaisseur des cheveux. Et puis, ces poussières ont commencé à s'agglomérer et à faire grossir des corps de plus en plus gros. Certains sont devenus des planètes, mais d'autres n'ont pas atteint le stade de la taille d'une planète et se sont parqués entre Mars et Jupiter et ont constitué cette ceinture d'astéroïdes. Et donc ils ont un avantage par rapport aux planètes, c'est que les planètes, le matériau qui les constitue a chauffé parce qu'elles sont très grosses, donc il s'est transformé chimiquement. Et en l'analysant, on n'a pas la composition initiale des ingrédients qu'ont formé les planètes. Elle a été perdue comme quand on prend des ingrédients, qu'on les met dans un bol et qu'on fait cuire pour faire un gâteau. Ben, au final, quand on a le gâteau, on a perdu la mémoire des ingrédients initiaux parce qu'ils ont été transformés par tout ce processus de chaleur. Et les planètes, c'est un peu ça. Et en fait, les astéroïdes sont restés suffisamment petits pour avoir gardé la mémoire de cette composition initiale du système solaire. Donc en les étudiant, on remonte le temps. Et par ailleurs, grâce à des modèles qu'on a fait notamment à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on a montré qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts et que peut-être ces impacts ont apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Alors ça, c'était de la théorie. Fallait le vérifier en pratique. Et moi, je faisais des simulations de collisions entre astéroïdes, des simulations numériques. Et de la même manière, j'avais besoin de pouvoir les valider avec un observable. Vous savez, les théoriciens ont fait des théories, mais après, il faut pouvoir les valider en pratique. Et très vite, je me suis rendu compte que le seul moyen de répondre à ces grandes questions scientifiques de la formation des planètes, de l'origine de la vie sur Terre, et aussi de répondre au problème de comment se protéger des astéroïdes, eh bien, il fallait faire des missions spatiales. Parce que les connaissances qu'on a depuis la Terre des astéroïdes ne suffit pas pour pouvoir répondre à ces grandes questions. Et dès le début, donc, je me suis intéressé à des missions de retour d'échantillons d'astéroïdes pour pouvoir analyser la matière qu'ils contiennent sur Terre, prise sur place, pour vérifier effectivement est-ce qu'ils contiennent les briques du vivant, par exemple. Et je me suis intéressé à ces missions qui vont les caractériser sur place pour nous dire est-ce que ce sont des agglomérats, comment ils répondent aux interactions qu'on leur fait subir, parce que si on veut les dévier, ben, il faut savoir quelle énergie on va envoyer. Voilà, donc en fait, les astéroïdes permettent, en les étudiant, de répondre à plusieurs questions qui ont besoin pour pouvoir avoir une réponse essentiellement des mêmes informations. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe la raison pour laquelle, par exemple, j'envoie une mission vers un astéroïde, ça peut être une raison de défense planétaire, mais en fait les informations que je vais obtenir sur ce qu'ils contiennent, leur structure, eh bien nourrissent les questions scientifiques qu'on se pose et vice-versa.
D'accord. Alors, la panse permis, on en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est venu sur... dans les médias, on en parle, Iberive en parlait, on en parlait. C'est quoi? C'est les comètes, les astéroïdes, parce que les météorites sont des fragments d'astéroïdes, mais est-ce que ce sont les astéroïdes ou les comètes qui ont apporté les éléments du vivant?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Déjà, faut rappeler que les météorites, c'est les objets, une fois ils sont tombés sur Terre et qu'on les récolte. Donc, quand on dit une météorite arrive sur nous, par définition, non, elle n'arrive pas sur nous, puisque si on l'appelle une météorite, c'est qu'elle est déjà tombée sur Terre. Et ce sont effectivement des bouts d'astéroïdes, hein, simplement, alors qu'ils traversent l'atmosphère, donc ils perdent beaucoup de masse dans l'atmosphère. On a un biais, évidemment, le matériau le plus résistant arrive sur Terre, c'est pourquoi on cherche plutôt à aller les récupérer sur place, sur des astéroïdes, parce qu'on évite de filtrer la matière. En plus, il y a des problèmes de contamination ensuite terrestre. Donc, mais c'est quand même grâce aux météorites qu'on a pu dater l'âge du système solaire et qu'on a pu avoir un grand nombre d'informations sur notre compréhension des phases précoces du système solaire, parce qu'elles contiennent, comme les astéroïdes, puisqu'elles viennent des astéroïdes, les ingrédients initiaux. Donc ça, c'est les météorites. La panse permis, c'est en fait l'idée que, mettons, on crée la vie quelque part et puis on la transporte ailleurs. Et donc, on aurait une ou plusieurs sources dans l'univers de vie. Et puis, au gré des collisions qui éjectent de la matière et que cette matière va dans d'autres systèmes planétaires, hein, on a des objets interstellaires qui nous rendent visite, on en a un actuellement, eh bien, peut-être que ces objets-là pourraient contenir ce qu'il faut pour transférer la vie d'un endroit à l'autre. Alors là, moi, je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas un biologiste. En tout cas, sur les astéroïdes, on n'a pas de vie. On a éventuellement de la composition qui se rapproche des briques du vivant, mais ce n'est pas actif. Donc je ne sais pas comment on transporterait quelque chose d'actif. Ce qu'on a trouvé en revanche dans les astéroïdes, et qui conforte un petit peu ces scénarios d'apport des ingrédients qui ont permis à la vie, non pas la vie elle-même, hein, mais des ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre, c'est que dans les échantillons qu'on a rapportés, et déjà dans les météorites, eh bien, on a découvert sur les astéroïdes des acides aminés, même des bases de l'ARN et de l'ADN, et puis bien sûr des minéraux hydratés, c'est-à-dire de l'eau en gros. Et quand on regarde les propriétés de tout ça, eh bien, c'est compatible avec ce qu'on pense être à l'origine du vivant. Voilà. Donc on en est là. On n'a pas encore compris comment on passe d'acides aminés, de base d'ARN à quelque chose qui vit. Mais déjà, en tous les cas, ça ne remet pas en cause. Au contraire, ça conforte ces scénarios qui disent que effectivement, si on a des impacts d'objets qui transportent ces éléments-là, et qu'on arrive à comprendre comment on va de ces éléments au vivant, eh bien, on a un scénario qui tient la route. Et on trouve cela dans les astéroïdes et aussi dans les comètes, évidemment. Dynamiquement, c'est plus difficile lors des formations de la Terre d'apporter la quantité de comètes qu'il faut pour qu'elle délivre tout le matériau nécessaire. Pour l'instant, alors selon à qui vous parlez en science, hein, évidemment, il y a toujours des débats. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent, d'après les modèles qu'on fait, que les astéroïdes auraient pu apporter l'eau et les minéraux, la matière organique a permis à faire émerger le vivant, et les comètes ont pu apporter les gaz qui ont permis de faire l'atmosphère de la Terre. Voilà. On a une combinaison entre les deux populations. Hein. Je rappelle, les astéroïdes, la plupart, sont entre Mars et Jupiter, ou alors croisent la Terre pour certains d'entre eux. On a une population particulière qu'on appelle les Troyens, qui partagent la même trajectoire que Jupiter. Voilà. Mais en gros, les astéroïdes, c'est tout ce qui est devant Jupiter. Et les comètes sont des objets qui sont formés au-delà de Jupiter, qui sont riches en éléments volatiles, en glace, et qui, quand ils s'approchent du Soleil, eh bien, cette glace se sublime, elle passe directement de solide à gazeux, et ça nous donne cette caractéristique que l'on peut voir depuis la Terre de comètes. Alors, très intéressant, depuis une dizaine d'années, on s'est bien aperçu que la frontière entre les comètes et les astéroïdes est moins brutale qu'on le pensait, parce que depuis, entre Mars et Jupiter, on a aussi découvert que certains astéroïdes contiennent de la glace, émettent des particules comme les comètes. Et donc, il semble qu'il y ait un continuum entre les deux populations, mais qu'on explique aussi par des scénarios de l'histoire précoce du système solaire.
D'accord. Alors, si je comprends bien, les météorites et les astéroïdes viendraient de la ceinture de Kuiper.
Alors, les astéroïdes viennent de la ceinture principale entre Mars et Jupiter.
D'accord.
On a cette ceinture qui est en fait est née très tôt. Elle s'est vidée d'ailleurs plusieurs fois parce qu'on a eu des grandes instabilités planétaires. Les planètes n'ont pas été formées là où elles sont. Elles ont bougé et donc elles ont créé des instabilités, des impacts, etc. Mais au départ, en fait, Jupiter s'est créé la première pour des raisons, on pourra en reparler si vous voulez. Puis pas très loin après Mars aussi il est assez tôt, et donc tout ce qui était entre Mars et Jupiter, eh bien, ne pouvait plus se rencontrer à des vitesses suffisamment lentes pour s'agglomérer. Donc on a cette ceinture de petits corps qu'on appelle la ceinture principale des astéroïdes, qui est entre Mars et Jupiter, qui vient du fait que, en gros, c'est une planète ratée, une planète qui n'a jamais pu s'accréter. Mmh. Et de la même manière, au-delà de Neptune, donc là on est bien au-delà, on a une autre ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui elle est une ceinture de comètes, qui est à l'origine des comètes de la famille de Jupiter.
D'accord. D'accord. Et le nuage de Oort, alors, c'est quoi ?
Alors, le nuage de Oort, lui, il est encore plus loin. Il a à peu près 20 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc là, on sort de l'environnement planétaire. Et c'est, en fait, vient de ces instabilités dont je parlais au départ, quand le système solaire s'est formé. En fait, bon, il y avait du gaz, il y avait du solide. Et quand les planètes commençaient à grossir, les planètes géantes, et qu'elles subissaient encore le gaz environnant, eh bien, elles ont migré, elles se sont déplacées. Et en se déplaçant, eh bien, elles ont expulsé beaucoup de matière à des grandes distances. Et ceci a permis de peupler le nuage de Oort. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a quelques décennies, on était dans cette vision que les planètes se forment là où elles se trouvent, tout est tranquille, on fait grossir des corps là où ils sont et on fait des planètes comme on en a dans le système solaire. Et puis en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première planète autour d'une autre étoile. Et en fait, elle n'était pas là où elle était censée se trouver. Elle était beaucoup plus proche de l'étoile que ce que la théorie nous disait. Et donc, il a fallu reviser un petit peu ces scénarios de formation planétaire. En les révisant, on s'est aperçu effectivement que quand on forme des planètes, eh bien, elles ont tendance à se déplacer. Parce que tant qu'il y a du gaz dans ce disque qu'on appelle protoplanétaire, fait de gaz et de poussière, eh bien, les corps qui grossissent et qui subissent ce gaz sont entraînés vers l'étoile. Et donc, nous aussi, ça nous est arrivé, mais on a été sauvés quelque part, parce que Jupiter a probablement migré vers le Soleil, mais on avait un autre corps qui grossissait derrière, qui est Saturne, qui lui a empêché d'aller trop loin vers le Soleil et de revenir vers des distances plus grandes. Donc on a une histoire un peu complexe avec des danses planétaires, moi j'appelle ça des ballets planétaires, qui du coup ont permis de mélanger du matériau formé à très grande distance du Soleil, riche en glace, riche en éléments volatiles, avec du matériau formé à très proche distance du Soleil, riche plutôt en métaux, en roches. Et ça explique cette variété de composition qu'on retrouve dans les astéroïdes entre Mars et Jupiter. on a probablement un mélange de corps formés en fait derrière au Jupiter au départ et qui ont été rapprochés grâce à la migration de Jupiter avec du matériau formé plus près. Mais avec tout ça a fait aussi que tout ce qui était formé derrière Jupiter, donc très loin, eh bien soit d'ailleurs s'est rapproché du Soleil, soit a été expulsé et a créé cette espèce de coquille. Il faut imaginer une coquille sphérique entourant le système solaire à 20 000 fois la distance du Soleil et qui constitue ce nuage de Oort. Donc c'est des corps très glacés, formés très tôt, et de temps en temps, le passage d'une étoile ou les marées de la galaxie secouent cette coquille et nous envoient un corps dans le système solaire, et ce sont ces comètes à longue période qu'on ne voit qu'une fois, qui viennent de très loin et qui repartent d'ailleurs très loin aussi.
D'accord. Alors, la différence entre la constitution d'une comète et d'un astéroïde, c'est quoi? Parce qu'il y a les chondrites carbonées, je sais. Il y a
Oui.
les météorites qui sont riches en fer. C'est quoi la différence entre les astéroïdes en composition par rapport à une comète?
Alors, déjà, on n'est pas sûr d'avoir des météorites qui viennent de comètes. Donc, du coup, on ne peut pas, sur la base des météorites, identifier cette différence. On a peut-être un candidat, une comète, la météorite de Tagish Lake, qui pourrait venir d'un corps cométaire, mais on n'en est pas très sûr. Les chondrites carbonées, pour le coup, elles collent parfaitement avec la composition des astéroïdes de type carboné. Et ça, on le sait, parce qu'on a ramené des échantillons de deux astéroïdes carbonés, les missions Osiris-Rex de la NASA et Hayabusa 2 de l'Agence spatiale japonaise, donc je faisais partie de ces équipes-là. Elles ont ramené des échantillons de deux corps différents, carbonés, et leur composition colle très bien avec les météorites carbonées, d'ailleurs les plus primitives, qui se rapprochent le plus de la composition de la photosphère solaire, qui sont les chondrites qu'on appelle de type CI, très noires. Et on a donc une analogie qui colle parfaitement avec les chondrites carbonées et les astéroïdes de type C. Donc pour les comètes, on ne sait pas trop, mais bien sûr, on a eu la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne, magnifique mission, qui a rendu visite à une comète. Et donc on a pu analyser sa composition sur place, alors pas avec le même niveau de détail que ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est d'où l'intérêt de ramener des échantillons. Mais effectivement, on a des différences alors qui sont un peu techniques, qu'on appelle de composition isotopique, qui vient du fait que les objets ne sont pas formés dans les mêmes régions, par exemple. On a aussi une différence dans les propriétés des gaz qu'ils contiennent, et puis des différences aussi d'abondance en glace, évidemment, les comètes étant plus loin. Voilà. Il y a des différences qui, pour les experts, parlent, mais comme je le disais tout à l'heure, même ces différences-là ne nous permettent pas de dire qu'on a vraiment deux populations extrêmement distinctes. On a plutôt un continuum qui amène de la composition des astéroïdes aux comètes, avec justement, on ne sait pas trop quand est-ce que la frontière se situe. Mais malgré tout, la différence pour nous, elle est dynamique maintenant, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on appelle comète tout ce qui vient de derrière Jupiter, donc de distance plus grande que Jupiter, et astéroïde ce qui est en dessous.
D'accord, parce qu'en fait, quand on fait la différence, quand on différencie les deux, on a une apparence visuelle qui est différente. La comète a une chevelure, alors que l'astéroïde n'en a pas.
Oui, mais voilà, c'est pour ça que je dis que la frontière est devenue plus floue, parce que on a découvert des astéroïdes actifs aussi, qui émettent des particules. Alors c'est
D'accord.
moins visible que les comètes. C'est moins visible parce que ces astéroïdes sont moins riches en glace ou en éléments volatiles, donc l'expulsion de matière est moins aisée. Mais on a découvert entre Mars et Jupiter des astéroïdes qui émettent de la poussière. Alors on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on n'a pas encore un scénario puisqu'on n'est pas allé sur place pour les voir. En revanche, on a quand même un cas qu'on a vu sur place, c'est la mission Osiris-Rex de la NASA qui est allée voir un petit astéroïde qui s'appelle Bennu de 500 mètres de diamètre. Et en fait, dès le premier mois de visite en 2018, en fait c'est plutôt 2019, on a détecté des particules qui s'échappent de Bennu. Alors j'ai écrit un livre chez Odile Jacob qui s'appelle La rencontre des astéroïdes, où je raconte dans un chapitre cette découverte absolument incroyable, parce qu'on était dans la salle on était en train d'écrire les premiers articles sur ce qu'on avait découvert de cet astéroïde. La sonde est arrivée le 3 décembre 2018 et tout de suite on a commencé à être vraiment surpris de ce qu'on voyait. On a commencé à faire les articles et un jour un collègue arrive dans la salle en criant « Bennu est actif, Bennu est actif ». On se dit « qu'est-ce qu'il raconte ?» et il nous met une image sur l'écran et on voit l'astéroïde très noir et on voit des particules qui s'en échappent. Et voilà, est-ce qu'on appelle ça un astéroïde actif, une comète? C'est là où je dis la frontière, est, voilà le continuum où il se situe. C'est que avant les comètes, c'était des corps qui expulsaient de la matière quand ils passent près du Soleil, on appelait ça des comètes, et les astéroïdes, c'était des corps inertes. Eh bien, c'est plus vrai. Mais bon, c'est pas aussi violent qu'une comète, d'où l'idée de continuum. Mais, encore une fois, si la glace est à l'origine de cette activité, bon, on l'a pas détecté, la glace, hein, sur Bennu, pour le coup, mais on a détecté de la glace sur des corps entre Mars et Jupiter. Donc, peut-être que pour ces astéroïdes entre Mars et Jupiter, une partie de l'activité vient de... Ben, on pourrait imaginer qu'ils ont de la glace en sous-surface, et puis ils subissent un impact, et ça crée une pression quand la glace se vaporise, et ça expulse de la matière, vu qu'il y a très peu de gravité. Le même mécanisme que pour les comètes, d'ailleurs.
Oui, d'accord.
C'est pour ça. C'est cette notion de les comètes sont actives, les astéroïdes ne le sont pas, est plus vrai, est plus totalement vrai.
D'accord. Patrick, on va faire une pause musicale, d'accord ?
Oui.
Pour nos auditeurs, pendant 8 minutes à peu près, et on va passer une musique d'Armageddon, justement le film Armageddon, et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite, et on parlera dans la suite de l'émission, on va parler des Armageddon, des risques que dont Apophis, des risques que les astéroïdes peuvent faire encourir à notre belle vieille planète, voilà, et puis on parlera un petit peu de Troy Atlas et de Oumuamua. On survolera un petit peu le thème. Voilà, donc voilà ce qui vous attend dans la suite de l'émission. Allez, je vous dis tout de suite après. Thank you. Et oui, voilà, c'était la musique d'Armageddon, vous l'avez tous vu, qui n'a pas vu Armageddon? C'est justement les dangers que peuvent représenter les astéroïdes quand ils sont de taille suffisamment importante, comme celui qui est tombé dans le golfe du Mexique à l'époque où il a exterminé une partie de la vie sur Terre, dont les dinosaures. Voilà, et là nous sommes de retour avec Patrick Michel, qui est directeur au CNRS et directeur de recherche dans le domaine justement des corps célestes, puisqu'on est en direct pour cette émission. On va parler maintenant des corps célestes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les corps célestes? Un Armageddon, d'abord, c'est quoi? Dites-nous un petit peu ce que c'est.
Alors déjà, tout ce qu'on cherche à faire, ce qu'on appelle le thème défense planétaire, qui donc cette thématique qui cherche à se protéger du risque d'impact, c'est pour éviter de sacrifier le pauvre Bruce Willis comme dans Armageddon. Plus sérieusement, c'est en fait, alors c'est un des risques naturels les moins probables évidemment par rapport à tous ceux qu'on peut expérimenter. Moi, je vais souvent au Japon et par exemple les tremblements de terre, c'est quelque chose que l'on peut vivre et expérimenter malheureusement de notre vivant. Le risque d'impact d'astéroïdes, il est plus probable que rien ne nous arrive pendant notre durée de vie que on se prenne un astéroïde sur la tête. En revanche, on sait que sur le long terme, alors on espère sur le long terme, parce qu'évidemment tout ça c'est statistique, eh bien ça se reproduira. Et on a un avantage par rapport à tous les autres risques naturels, en tout cas la plupart, c'est que c'est un risque qu'on peut prédire et éviter avec des moyens qui sont tout à fait raisonnables et réalisables, et d'ailleurs qu'on est en train de mettre en œuvre. En revanche, pour pouvoir être prêt, eh bien, il faut du temps, parce qu'il faut, on va peut-être en parler, continuer à découvrir ces objets, à tester des façons de les dévier, à s'organiser à l'échelle internationale. Donc tout ça nécessite du temps, c'est un temps qu'en principe on a, mais on préfère s'en occuper maintenant parce qu'on voudrait éviter aux futures générations qu'elles aient à improviser, parce qu'en fait, pour ce genre de risque à très faible probabilité mais à haute conséquence, il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin. Parce que le jour où on en avait besoin, si on n'est pas prêt, c'est trop tard. Et donc, si on ne veut pas finir comme les dinosaures, eh bien, c'est bien que des gens comme nous s'intéressent à pouvoir élaborer des scénarios et des plans pour y faire face, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule situation, pour que les générations futures, elles n'aient pas à improviser. Et donc, c'est pourquoi c'est important de s'en occuper, sachant qu'on est conscient que ça se reproduira. Et pour moi, ça serait irresponsable, même si je pense que ça ne concerne pas ma propre durée de vie, eh bien, ça serait irresponsable d'ignorer ça et qu'un jour, je ne sais pas quand, dans des siècles peut-être, eh bien, les gens qui auraient à y faire face se disent « Ah, mais ils savaient, ils n'ont rien fait et maintenant c'est foutu ». Voilà. Donc l'idée, c'est de se préparer avant d'en avoir besoin.
À partir de combien à partir de quelle taille un astéroïde est considéré comme étant un exterminateur?
Alors, un exterminateur, donc par exemple celui qui a contribué ou provoqué l'extinction des dinosaures, c'est un objet d'à peu près 10 km de diamètre. On les connaît tous et aucun ne nous menace pour des millions d'années pour ceux de 10 km. Ils sont suffisamment gros pour qu'on ait pu en faire l'inventaire rapidement. On a fait aussi l'inventaire des objets plus grands que 1 km. On en connaît à peu près 95%, et là, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle du globe. Voilà. Donc ça n'éteint pas toutes les espèces, mais ça aurait des conséquences à l'échelle du globe, et là encore, on les connaît à peu près tous, et les fréquences d'impact, on parle d'en moyenne tous les 500 000 ans. Pour ceux de 10 km, c'est en moyenne tous les 100 millions d'années. Donc on voit quand même qu'on a affaire à des fréquences extrêmement faibles. Là, ce qui nous intéresse plus, c'est de faire l'inventaire de tous les objets plus grands que... Alors, on a mis 140 mètres, mais moi, j'aime bien dire au-delà de 100 mètres, parce que 40 mètres, on sait... en plus, on n'a pas la taille réelle quand on observe un objet. Donc, au-delà de 100 mètres, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région, voilà, ou d'un petit pays. Et là, on n'en connaît que 40%. On estime qu'il y en a à peu près 20 000. Et ça serait intéressant d'identifier les 60% restants, parce que même si les fréquences d'impact sont en moyenne tous les 15 000 ans, bah, comme on dit, vaut mieux être désolé que foutu. Et donc, vaut mieux être en sécurité que désolé. Et donc, pour se sécuriser, on préfère les identifier tous, mais ça va être fait. parce que déjà depuis la Terre, on a des programmes de découverte. Alors, pour les objets plus grands que 100 mètres, il faudrait plusieurs décennies pour les découvrir depuis la Terre, et on aimerait bien le faire plus rapidement. Et il se trouve que la NASA va lancer une mission qui s'appelle NEO Surveyor, donc surveilleur de géocroiseurs, en 2028, et devrait nous faire l'inventaire des objets plus grands que 140 mètres en 10 ans. Donc ça veut dire que d'ici 2040, on devrait avoir une bonne connaissance du risque d'objets qui peuvent faire des dégâts au minimum à l'échelle d'une région, et donc aussi une bonne capacité à anticiper l'arrivée de l'un d'entre eux, et ça c'est très très important. Donc on voit que, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, découvrir ces objets et prédire ne nécessite pas de lever des verrous technologiques, il suffit d'envoyer un télescope spatial, ce qui va être fait, et on va pouvoir avoir au moins cette connaissance de ces objets au-delà du risque régional en 10 ans. En parallèle, il faut mener des tests de déviation d'astéroïdes, parce qu'évidemment, si je sais qu'un objet m'arrive dessus, ben, c'est bien, mais si je peux rien faire, à part faire une méga fête parce que je sais que je vais mourir, et j'ai pas d'autre choix, c'est pas terrible. Donc l'idée, c'est aussi, en parallèle, de s'assurer qu'on a des méthodes pour éviter une collision de ces objets, ou alors, quand c'est des objets très petits, une capacité d'évacuer rapidement une région. Et donc, on a déjà fait un premier test de déviation réussi avec la mission DART de la NASA, qui a envoyé un satellite de 580 kg à 6 km par seconde, donc à peu près 24 000 km/h, sur un petit objet de 150 mètres. Et elle a réussi à taper dedans de façon autonome, hein, parce que quand on arrive aussi vite, et on l'a fait à 11 millions de kilomètres de la Terre, avec un joystick, on ne peut pas guider la sonde. Donc c'était ça le test, hein, est-ce qu'on arrive à guider une sonde de façon par elle-même, hein, autonome, sur un petit objet dont on ne connaît rien au départ à part sa taille. Et ça, ça a été fait. Et donc on a une autre mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle ERA, qui a été lancée en 2024, qui va retourner sur la scène du crime, les Américains n'aiment pas le dire ça, disons la scène de l'impact, pour pouvoir nous dire exactement ce qui s'est passé, quelle a été l'efficacité de la déviation, pour pouvoir utiliser cette première connaissance pour d'autres scénarios. On va tester d'autres choses. Et puis, en parallèle encore, il faut continuer à comprendre ces objets, à les caractériser, à savoir de quoi ils sont faits, parce que la méthode qu'on va utiliser pour les dévier ou l'énergie qu'on va donner à un satellite qui doit taper dedans n'est pas la même si j'ai affaire à une éponge, une barre métallique. Donc il faut qu'on comprenne leurs caractéristiques. Et bien ça, c'est encore des missions spatiales, dont une dont on parlera peut-être vers Apophis, pour pouvoir caractériser ces objets. Et enfin, donc prédiction, ça c'est découvrir ces objets. Prévention, c'est avoir des méthodes de déviation validées et une meilleure compréhension des propriétés physiques de ces objets. Et le troisième volet, c'est avoir une réponse coordonnée à l'échelle internationale. Autrement dit, si je sais qu'un objet m'arrive dessus, qui je préviens, qui décide, qui finance pour pouvoir s'en protéger. Et ça, on a mis deux groupes de travail sous l'égide de l'ONU qui sont chargés de proposer une réponse internationale coordonnée pour les différents scénarios auxquels on pourrait faire face. Alors évidemment, pour l'instant, on n'est pas, on n'est pas prêt, hein. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est ce que je disais. Il faut vraiment s'assurer qu'on est prêt avant d'en avoir besoin, parce que tout ça met du temps. Mais on a, en tous les cas, dans les trois volets que j'ai dit, prédiction, prévention et organisation internationale, on a déjà bien avancé. Donc ça, c'est quand même assez sympa.
D'accord. Pour nos auditeurs, sachez une chose, c'est que quand on dévie un astéroïde de quelques centimètres, s'il est loin de la Terre, ça fait plusieurs milliers de kilomètres quand il arrive proche de la Terre. Donc en fait, exactement, le fait de le dévier un tout petit peu, si suffisamment loin, avec le, c'est comme si on prenait l'hypoténuse d'un triangle rectangle, et ben en fait la distance par rapport à l'impact serait gigantesque quand il arriverait sur la Terre. Est-ce que je me trompe ?
Non, et c'est d'où l'intérêt de pouvoir anticiper. Plus on dévie en amont, moins on a besoin d'énergie pour qu'il rate la Terre. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir anticiper, et que je me réjouis qu'un télescope spatial va nous permettre d'avoir une bonne connaissance de tous ces objets-là au-delà de 140 mètres, leur trajectoire, comme ça on pourra anticiper. D'ailleurs, même dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est que on puisse envoyer en amont une mission de reconnaissance pour nous dire de quoi est fait l'objet, pour que la mission de déviation soit calibrée à la bonne structure auquel on a affaire, parce que sinon, il faudra y aller en aveugle. Donc, c'est encore une fois l'intérêt de s'y préparer maintenant, alors qu'on n'a aucune menace identifiée. Hein, là, je rassure tout le monde, on n'a aucun objet que l'on connaît qui nous menace, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, en principe, on a le temps, même si pour ceux qu'on ne connaît pas, il y a un tout petit risque, mais par rapport aux fréquences d'impact, enfin, moi, j'ai plus peur avec ma moto que de me prendre un astéroïde sur la tête. Eh bien, l'intérêt de pouvoir être prêt bien en amont nous permet, eh bien, de nous assurer que le jour où un objet nous arrive, on a le temps de mettre en place toutes les procédures qui nous permettent de maximiser nos chances de se protéger. Parce que si, par exemple, on doit envoyer une sonde pour dévier un astéroïde et on n'a aucune connaissance depuis la Terre de sa structure, etc., ben, il faudra espérer qu'on ne s'est pas trompé dans nos hypothèses. Mais c'est pas garanti, sachant que jusqu'à maintenant, toutes les missions spatiales qu'on a faites vers des astéroïdes, à chaque fois, nos hypothèses étaient fausses. Hein. Donc, il faut être humble. On est en train d'apprendre à gérer ces objets. Vous savez, ce qui est fascinant, et c'est ce qu'on a compris dans les missions, et ce que je raconte dans mon livre, c'est que toutes les corps qu'on est allé voir ne correspondaient pas aux hypothèses qu'on avait faites. Et pire, quand on était sur place et qu'on en avait des images, eh bien, après, quand on interagissait avec eux pour récolter un échantillon, par exemple, pour taper dedans, eh bien, la réponse qu'ils donnaient à nos interactions n'était pas celle qu'on attendait. Donc, les images ne nous permettaient pas de dire si ces corps sont solides ou mous, par exemple. Même si je vois des roches à la surface d'un astéroïde, c'est pas pour ça qu'il est solide. Et ça, c'est tellement contre-intuitif. Parce que sur Terre, moi, quand je vois un rocher, je sais que si on me l'envoie sur la tête, ça va me faire mal. Alors que sur un astéroïde, ce n'est pas nécessairement le cas. Eh bien, ça nous a appris que quand on a des objets qui sont si petits que leur attraction de surface est extrêmement faible, hein, eh bien, du coup, le comportement de la matière n'est pas nécessairement le même que sur Terre, même si les lois sont les mêmes, évidemment. Donc, il nous faut apprendre à interagir avec eux. Et donc, tout ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas envoyer plein de missions. Et donc, c'est pour ça qu'on se donne ce temps-là. Et fort de cette prise de conscience, la NASA a mis en place en 2016 un bureau de défense planétaire. L'Agence spatiale européenne a aussi mis en place en 2019 un bureau de défense planétaire dans lequel les missions ERA et Ramsès sont développées. Et l'Agence spatiale japonaise a créé un groupe de défense planétaire en 2024 aussi pour justement s'occuper de ce problème. Et d'ailleurs à l'échelle internationale, et se dire que ben voilà, on prend le temps qu'il faut pour être prêt le jour où on en aura besoin.
Alors il nous reste 5-10 minutes d'émission. On va parler d'Apophis. Qu'est-ce qu'il en est pour Apophis ?
Alors Apophis, c'est un objet qui va passer très près de la Terre. Il fait à peu près entre 300 et 400 mètres de diamètre, donc deux fois la taille d'un stade de foot, à peu près. Il va passer à 32 000 km de la Terre le vendredi 13 avril 2029. Alors, c'est pas parce que c'est un vendredi 13 qu'il faut être inquiet. En l'occurrence, on est sûr qu'il rate la Terre. Donc, Apophis ne va pas tomber sur Terre. On va falloir le dire des milliers de fois, parce que je vois les théories de conspiration arriver. En plus, le nom qu'on a choisi pour cet astéroïde, c'est pas très malin, le dieu du chaos. Évidemment, un vendredi 13, du coup, on n'est pas crédible. Mais je vous assure, il va pas tomber sur Terre. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est deux choses. Une, grand public. On va pouvoir voir à l'œil nu sa lumière depuis la France, en l'occurrence depuis l'Europe et l'Afrique et une partie du Moyen-Orient, bien sûr sous un ciel clair. Donc le soir du vendredi 13 avril, vous pourrez voir une toute petite lumière, hein, c'est pas la Lune, mais quand même une toute petite lumière se déplacer sur la sphère céleste. Ça se produit qu'une fois tous les 7000 ans, un tel objet qui vient si près de la Terre. Donc c'est une occasion unique pour nous d'avoir un petit moment d'émerveillement commun. C'est ça qui est génial avec l'astronomie et l'espace, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Tout le monde, sous un ciel clair, peut voir la même chose et s'émerveiller tous ensemble. Et pour moi, c'est des messages géniaux, pacifiques. Deuxième chose, c'est qu'il va passer tellement près que les forces de marée terrestre, donc la variation de la gravité de la Terre quand il s'approche et qu'il s'éloigne, va être suffisante pour qu'il puisse éventuellement en subir des conséquences. Il pourrait être déformé, il pourrait y avoir des avalanches sur sa surface, il pourrait avoir des choses très intéressantes. Et je venais de vous dire que justement, le fait d'interagir avec eux vaut de l'or, parce qu'à chaque fois qu'on a interagi avec eux, on n'a pas eu la réponse attendue. Ça nous montre qu'on les comprend mal. Jusqu'à maintenant, les interactions ont été faites par nous, soit pour récolter des échantillons, soit pour le dévier. Là, la nature offre les forces d'interaction et on n'a qu'à regarder. Donc c'est absolument extraordinaire et c'est pour ça qu'on a obtenu le financement à l'Agence spatiale européenne pour faire une mission spatiale en coopération avec le Japon, qui va être lancée en 2028 sur la même architecture que la mission ERA dont je vous parlais, avec en fait une sonde principale et deux mini-satellites comme des drones qui vont être déployés à proximité d'Apophis. Et donc elle va pouvoir arriver en février 2029, étudier les propriétés physiques de l'astéroïde avant la rencontre et voir comment ces propriétés changent pendant la rencontre. Avec en plus une contribution française très intéressante, puisque dans les deux drones qui vont être déployés, l'un d'entre eux aura un radar basse fréquence français qui va sonder l'intérieur d'Apophis, donc on va savoir quelle est la structure interne d'Apophis, et l'autre drone, on appelle ça un CubeSat hein, dans le jargon spatial, va atterrir sur Apophis pour déposer un sismomètre. Et ça, c'est génial, c'est la première fois qu'on va faire de la sismologie sur un astéroïde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les forces de marée terrestre vont faire vibrer l'astéroïde, et donc on va pouvoir voir comment les ondes sismiques se propagent à l'intérieur, ce qui est une autre manière de mesurer les propriétés mécaniques et internes de cet astéroïde. Donc ça, c'est génial, scientifiquement, on va comprendre quels sont les effets de marée produits sur un astéroïde qui ont bien sûr des implications non seulement scientifiques mais aussi pour la défense planétaire. Et dernière chose intéressante, c'est qu'en fait on va envoyer en direct les images prises par la sonde de l'astéroïde au public pendant que ce même public verra la lumière à l'œil nu. Donc moi j'imagine un enfant qui est en train de regarder le ciel dans la nuit du 13 avril et qui voit ce petit point lumineux se déplacer et qui sur son écran voit les images détaillées de la surface. C'est des choses qui vont rester dans la mémoire collective, un petit peu comme quand à l'époque des missions Apollo, les gens voyaient à la télé les astronautes atterrir sur la Lune et certains avaient la chance de voir dans leur jardin la Lune dans le ciel. Faire le lien entre les deux, c'est absolument magnifique. Donc c'est aussi une occasion d'inspirer les jeunes et le public pour la connaissance, avec en plus une année 2029 qui a été adoptée par l'ONU comme étant une année, l'année de mondiale de la sensibilisation aux astéroïdes et à la défense planétaire. Voilà, donc tout ça c'est réjouissant. Apophis n'est pas une source d'inquiétude, ça va être plutôt une source d'émerveillement.
D'accord. Alors, après Apophis, est-ce qu'on peut jeter un petit clin d'œil sur 3i Atlas ? Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Alors 3i Atlas, c'est le troisième corps interstellaire qui nous rend visite. Donc là, ce sont des objets qui, contrairement aux astéroïdes et aux comètes qui sont liés à notre système solaire, eux ne font que passer. Et ils ont probablement été éjectés d'autres systèmes planétaires, puisque nous-mêmes, notre système solaire a éjecté de la matière dans ses phases précoces. Hein, le nuage de Oort dont on a parlé provient de cette expulsion de matière. Donc on peut évidemment imaginer que les autres systèmes planétaires éjectent de la matière et puis ces objets traversent dans le milieu interstellaire et par chance, de temps en temps, nous croisent. Donc c'est génial parce qu'on ne pourra jamais aller voir d'autres systèmes planétaires, ils sont beaucoup trop loin. Donc c'est heureux que des messagers quelque part viennent et si on arrive à en exploiter un maximum de données les concernant, eh bien ça peut permettre de nous dire ce qui se passe dans ces autres systèmes planétaires et qu'est-ce que ça veut dire de traverser pendant des milliards d'années, ce qui est le cas de 3i Atlas, le milieu interstellaire avec une surface exposée continuellement aux rayons cosmiques, etc. Donc cet objet-là, il a les caractéristiques d'une comète. Donc il émet de la matière, un peu comme une comète. On a pu l'observer, il va passer à la distance la plus proche de la Terre, mais c'est 270 millions de kilomètres, le 19 décembre, donc très prochainement. Il est passé derrière Mars, il y a plein de missions spatiales qui l'ont observé. Ça a été une façon aussi d'utiliser des missions pas faites pour ça, pour observer cet objet, parce que c'est très intéressant. On essaie d'en tirer un maximum de connaissances. Alors évidemment, il est bizarre. C'est vrai qu'il y a des bizarreries par rapport à nos comètes classiques. Et pour nous, ça le rend encore plus intéressant, mais ce n'est pas inattendu qu'il y ait des bizarreries. D'abord parce que même les comètes qu'on connaît soi-disant si bien, elles ont une telle diversité que, évidemment, à chaque fois, on découvre des nouvelles choses quand on va voir des comètes. C'est pour ça qu'on les observe, c'est pour ça qu'on veut faire des missions spatiales pour aller les voir. Mais en l'occurrence, quand on a un objet qui a subi une toute autre histoire que l'histoire de nos comètes qui sont nées dans notre système solaire, il ne faut pas s'étonner qu'on y voit quelques différences et des caractéristiques qui ne correspondent pas nécessairement à 100% à celles de nos comètes, parce qu'ils ont subi des processus pendant, par exemple ce que je disais, les rayons cosmiques pendant des milliards d'années, ça crée des effets qu'on ne voit pas sur nos comètes. Donc c'est très intéressant et on essaie d'en tirer un maximum de connaissances. ça ressemble vraiment à une comète, ça, c'est un objet naturel, hein, parce que je sais que certains racontent un peu n'importe quoi là-dessus, mais évidemment avec des choses inattendues et que petit à petit d'ailleurs on explique sur des bases scientifiques et naturelles.
D'accord. Oumuamua, qu'est-ce que c'était exactement ? Parce
qu'il
y a
moi,
eu
justement.
Beaucoup de polémiques qui ont été dises sur cet astéroïde, soi-disant que c'était... Enfin, c'est, je veux dire, quand on extrapole et qu'on va chercher un petit peu du grand n'importe quoi, on dit qu'il y a des gens qui disent que c'était une sonde, enfin, etc., etc.,
oui,
etc.
Et c'est la même chose pour 3i Atlas, hein, y a le même fantasme. Alors, pour moi, je vous recommande un documentaire qui passe actuellement en replay sur France 5, qui est passé il y a quelques temps, dont j'ai été le conseiller scientifique, et j'y interviens avec plein de collègues, justement, qui expliquent la démarche scientifique. Voilà. Oumuamua, quel était le problème? Comment on essaie d'y répondre scientifiquement? Et c'est très intéressant. Donc, ne serait-ce que par pédagogie, il est très intéressant de regarder ce documentaire qui, en fait, a été motivé par le fait qu'effectivement, Oumuamua a toujours sa part de mystère. Alors, on a des explications scientifiques, mais en gros, on a eu trois objets interstellaires qui nous ont rendu visite, deux comètes, hein, qui ont les caractéristiques de comètes dont on parlait tout à l'heure, avec de l'expulsion de matière qui explique les trajectoires, etc. Oumuamua, en fait, ce qui était très bizarre, c'était un objet qui n'avait pas l'apparence d'une comète parce que, a priori, pas d'activité visible, on ne voyait pas de gaz s'expulser. Et pourtant, quand on regarde la trajectoire qu'il a, eh bien, elle ne correspond pas à celle qui serait produite uniquement par l'attraction des planètes. Il y a une petite poussée supplémentaire, et cette petite poussée, on n'a rien de visible qui l'explique. D'où le fantasme que, en fait, il est propulsé, c'est un engin spatial qui a son mode de propulsion, etc. Bon, en l'occurrence, depuis, on a pas mal avancé sur la compréhension de ce que veut dire traverser le milieu interstellaire pendant des millions ou des milliards d'années. Et en l'occurrence, on a plusieurs possibilités d'expliquer cette propulsion invisible parce que tous les gaz ne nous permettent pas d'être détectés depuis la Terre. Donc par exemple, on pourrait penser que c'est on a de l'azote glacé, comme on en a sur Pluton par exemple, et quand cet azote glacé dégaze, on ne le voit pas depuis la Terre, et ça permet d'expliquer la poussée. Ça pourrait être aussi de l'hydrogène. Donc il y a plusieurs scénarios possibles qui dépendent de son histoire, qui dépendent d'où il vient. Évidemment, on ne peut pas trancher parce qu'il est reparti, mais le mystère qu'il avait, c'était par rapport à sa trajectoire, qui n'était pas celle qui collait avec un objet qui n'a aucun dégazage. Voilà. Mais en fait, on arrive à expliquer ce dégazage, et d'ailleurs, on a des corps, depuis qu'on a découvert dans le système solaire, qui ont aussi cette petite poussée supplémentaire, on appelle ça des comètes sombres, des dark comètes, parce qu'elles ont l'apparence d'un astéroïde, et pourtant, leur trajectoire a une petite propulsion supplémentaire qu'on ne voit pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, on ne comprend pas tout. Et en l'occurrence, là, petit à petit, on arrive à établir des scénarios qui nous permettent d'expliquer ça. Donc, on estime que des objets interstellaires, il devrait y en avoir un par an qui nous rend visite. Depuis 2017, le premier qu'on a découvert, on en a découvert trois parce qu'ils ne sont pas faciles à détecter. Hein, il faut encore qu'ils passent à un endroit qui nous permet de les détecter. Mais ça colle à peu près. Heureusement, ils passent très loin de la Terre, parce qu'évidemment, ça pourrait créer un danger. Mais bon, c'est tellement peu fréquent et c'est un peu comme les comètes longue période, les trajectoires sont en général pas compatibles avec une collision avec la Terre. Ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir aller en voir un, rendre visite, parce qu'on a tellement de difficultés à savoir de quoi ils sont faits depuis la Terre. Et il y a la mission Comet Interceptor, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui va être lancée en 2029 et qui, elle, c'est assez malin, va se mettre là où est le James Webb ou la mission Gaia, on appelle ça le point L2 de Lagrange, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, c'est un point à peu près stable. C'est-à-dire vous vous mettez là, vous restez là. Et l'idée, c'est de se dire, malheureusement, ces objets comme les comètes à longue période ou les objets interstellaires, on les découvre trop tard pour envoyer une mission. Parce qu'on les découvre quand ils rentrent dans le système solaire et c'est trop tard pour envoyer une mission. Donc pourquoi on n'envoyerait pas une mission qui attendrait le prochain? Et donc, ça va être fait en 2029. Alors, c'est plus facile d'attraper une comète à longue période, donc je pense que c'est plutôt ça qu'on ira voir pour des raisons mécaniques. Mais si par chance, un objet interstellaire passe au bon endroit pour que cet intercepteur à aller le voir, évidemment, ça sera qui sera choisi, parce que là, pour le coup, on pourra le survoler à très faible distance et donc ça, répondre à toutes les questions qui restent en suspens.
D'accord. Merci infiniment. Merci pour ce beau témoignage. On arrive à la fin de l'émission. On va devoir rendre l'antenne parce qu'on est déjà en retard, d'ailleurs. On est déjà en retard. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci pour ce beau témoignage. Voilà. Vendredi prochain, vous aurez une autre émission. Surveillez bien, surtout sur la page des sites Facebook. Je vous dis, la porte de la connaissance d'Eau de Radio. La prochaine émission, vous verrez ce que c'est. Merci infiniment et à une prochaine émission. Allez, au revoir. Les portes de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.